Mais I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee it.
C'est l'heure des prédictions pour cette semaine, la semaine 3, la semaine 4, oui, déjà de la NFL. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Steph, ça a été quoi ta semaine 3 en termes de prédictions?
Bon, 9 encore. Moi, je suis constant, Jean-Nic. 9 à date. Mes 3 semaines. 56% de moyenne. À l'école, on passe pas, je le rappelle. Fait que je ne peux dire que ça va s'améliorer. Hein? Ça va bien aller, qu'on disait il y a quelques mois.
Moi, tu vois, je suis 7, 11, 9. Donc, ça fait le total 9, 9, 9, moi aussi, si je le sépare. Donc, on est à égalité, mon cher, en cette semaine 4. On va essayer de se départager cette semaine. Commençons avec un match... attendu parce que ces deux jeunes carrières qui s'affrontaient dans des matchs incroyables à NCAA. Toi qui
LSU, LSU là sérieusement contre Bama, c'était quelque chose.
Et là on enregistre et toi dit qu'il souhaitait jouer le match, on comprend qu'il va le jouer. Les Dolphins qui pratiquent à peu près pas cette semaine sont en déplacement. On va voir, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs sur la liste des blessés en début de semaine. Je pense qu'il y en avait 15. Les Bengals qui sont favoris, tout dépendant des preneurs au livre, là, mais c'est autour de favoris par 3, 3.5.
J'ai les Bengals aussi. Je comprends qu'en ce moment, ça me surprend qu'ils soient favoris, sincèrement. Là, de la façon dont Miami joue, c'est extraordinaire. Mais il y a le facteur fatigue. Là, tu vas me dire, ouais, mais Cincinnati aussi ont joué dimanche. Oui, mais ils ont joué contre les Jets, un match relativement facile. Ils n'ont jamais été menacés. Les Dolphins ont joué un match de série. Tu sais, ceux qui ont écouté ce match-là, c'était extraordinaire. Ça frappait. Ça tombait comme des mouches. C'était intense à un point qu'on se disait, il y a quelque chose entre ces deux équipes-là, vraiment. Là. Je pense qu'émotivement, physiquement, ça revient très vite ce jeudi-là pour les Dolphins. Puis c'est juste pour ça, moi, que je favorise les Bengals. Je pense pas que c'est une meilleure équipe dans le moment, mais j'ai peur un peu de l'effet fatigue, de l'effet on retombe un peu du nuage du côté des Dolphins.
Ben surtout que les Dolphins ils ont eu de la difficulté à se concentrer avec toute l'histoire entourant Tua. Puis, écoute, si on me suit, moi, les Dolphins sont 0-4. Est-ce que je vais prendre aussi les Bengals?
C'est le partisan le plus pessimiste de l'histoire de l'humanité, tout simplement.
Je vais continuer dans ma séquence. Alors, comme j'ai mis les Dolphins perdants chaque semaine, on va les mettre encore perdants cette semaine. Ça me brise un peu le cœur. Je pense qu'ils vont être aussi un peu la langue à terre jeudi. Meilleure chance contre les Jets pour la fin de semaine, l'action de grâce. Donc, victoire des Bengals. OK, on s'en va à Londres, hein, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Alors que les
Vikings. Match à 9h30.
Oui, 9h30, c'est dimanche matin. Alors que les Vikings vont rejoindre les Saints et leur casque noir.
Oui, alors Londres, ils sont tellement pas chanceux. Juste une petite note un peu comique, Jean-Nic. Ça va être le 31e match à Londres dans l'histoire de la NFL. Et jamais à ce jour, il va y avoir un match avec les deux équipes qui présentent une fiche gagnante. C'est quand même incroyable. 31 fois, encore cette année, parce que les Saints sont à 1-2, les Vikings sont à 2-1. On se demande si les pauvres londoniens vont vivre ça un jour, un match entre deux clubs gagnants. Là, ça semble pas être dans les plans.
Faut dire qu'ils ont les Jaguars souvent.
Oui, effectivement. Puis tu sais, ils ont eu l'année passée les Dolphins au moment où ils étaient 1-5, quelque chose comme ça. Là. Donc, il y a eu souvent des équipes un peu misérables. C'est pas le cas cette année. Je pense que c'est deux bonnes équipes, mais il n'y a toujours pas deux fiches gagnantes. L'attaque des Saints, qui a inscrit 24 points à ses deux derniers matchs, c'est clairement pas convaincant. Je vais y aller avec les Mauves.
Ouais, moi aussi, je pense que les Vikings ont montré qu'ils sont capables de trouver la zone début par la voie des airs aussi. Ça me rassurait en fin de semaine. Je pense qu'ils vont vaincre les Saints, qui ont de la misère, eux, par la voie des airs. Victoire des Vikings. OK, on s'en va maintenant à Atlanta, 2-1 match qui passera pas à l'histoire. Les Browns contre les Falcons.
Non, c'est ça, mais il y a quand même un enjeu pour les Browns au sens où eux, s'ils continuent de gagner quelques matchs ici et là, tu sais, tout ce qu'ils leur demandent, c'est de survivre. Tu sais, Jacoby Brissett qui joue du football correct jusqu'à maintenant. Imagine si cette équipe-là arrive à la fin de la suspension de Sean Watson avec une fiche, par exemple, de, je sais pas moi, 6-5, quelque chose comme ça. Ça pourrait faire jaser. Donc, eux, ils ont un incitatif. Je dis pas que les Falcons en ont pas, mais c'est clairement une saison qui s'annonce plus difficile de ce côté-là. Je vais y aller avec les Browns, leur attaque au sol, redoutable. C'est vraiment du gros travail que Nick Chubb et Kareem Hunt font depuis le début de l'année. Même si tout le monde dans le stade sait qu'ils vont courir et encore courir avec le ballon, ils réussissent à s'imposer. C'est impressionnant. Donc, Browns, victoire.
Ils sont chanceux d'affronter les Falcons en fin de semaine, les Browns, parce que je trouve pas qu'ils sont... Oui, là, l'attaque au sol fonctionne, là, mais il y a à peu près juste ça qui fonctionne pour les Browns.
Ben, si tu oublies, par contre, l'effondrement monumental contre les Jets dans les deux dernières minutes, là, la défensive, oublie ces deux dernières minutes-là, la défensive joue plutôt bien depuis le début de la saison.
Quand le Myles Garrett a fait un crash avec son char.
Ouais.
Là, ce que je comprends, il va jouer là, parce qu'il est sorti de l'hôpital sans trop de blessures, mais dans quel état, on le sait pas.
Quand même à noter, ouais.
Victoire des Browns, moi aussi, parce qu'ils sont chanceux d'affronter les Falcons, mais ils déclasseront pas les Falcons, à mon avis. OK, les Bills, tout amochés, s'en vont jouer contre Lamar Jackson et les Ravens.
Hey, Lamar Jackson, est-ce que c'est possible? Je pense qu'il joue encore mieux qu'à son année MVP en 2019. C'est fou comment il est bon. Il mène la NFL non seulement avec 10 passes de toucher, mais en plus, si tu regardes dans le classement des porteurs de ballon, là, il est cinquième pour les gains au sol. C'est fantastique tout ce qu'il fait en ce moment. C'est un one-man show, les Ravens. Est-ce que ça peut durer? Je le sais pas. Mais il est vraiment dominant, Lamar Jackson. Ce qui est moins dominant, par contre, c'est la défensive contre la passe. C'est cette défensive-là a été exposée contre des corps arrière là, qui sont pas les meilleurs de la NFL. Je pense à des Mac Jones, des Joe Flacco. C'est clairement une lacune cette année. Puis là, tu affrontes Josh Allen. Je comprends que les Bills ont à peu près des dizaines de blessés. Ça finit plus de tomber. Mais à cause du facteur Josh Allen, Stephon Diggs, Gabe Davis contre cette tertiaire-là qui semble pas trouver de solution, je vais y aller avec les Bills.
Mais moi, je vais prendre les Ravens. Là. Je trouve
deux défaites Bills... de suite pour Buffalo.
Ouais, parce que je trouve que les Bills ne m'ont pas convaincu au sol contre les Dolphins, qui ont beaucoup de problèmes à arrêter au sol. Même s'ils ont traversé le terrain plusieurs fois, ils ont eu de la difficulté à trouver la zone début. On le disait tantôt, mais ils ont gardé le ballon 40 minutes. Puis ils n'ont pas été capables de faire plus que 17 points à l'attaque.
63 passes pour Josh Allen.
Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, il y avait une statistique un peu weirdo, là, mais... Il y a deux équipes depuis 16 ans qui ont accordé plus de 275 verges de plus à l'adversaire, mais qui ont gagné quand même. Et les deux équipes, c'est les Dolphins, une fois en 2020 avec toi et cette semaine avec les Bills. Les Bills, ils vont avoir un début de saison où les attentes sont grosses, la pression est forte. On a vu Josh Allen aller se faire réconforter dans les bras de Tua. À la fin du match, c'était une
scène. Ah, il était épuisé, là. C'était fou.
Épuisé, mais c'était quasiment. Je sais pas quel genre de pression subissent les joueurs à Buffalo en ce moment. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup sur les épaules. Pendant ce temps-là, les Ravens sont eux aussi ont des blessures, mais sont vraiment en mission avec Lamar Jackson. J'y vais avec les Ravens. Les Commanders, eux, s'en vont à Dallas affronter une défensive là, qui en fait voir de toutes les couleurs au corps arrière des autres équipes.
Oui, tout à fait. Les Cowboys, d'ailleurs, qui ont beaucoup de succès contre Washington. Ils ont gagné 9 de leurs 12 derniers matchs. Puis c'est tu parles de la défensive des Cowboys. Écoute, c'est un sommet cette saison, 13 sacs du corps. Ça vient pas juste de Micah Parsons, c'est ça qui est le fun. De Marcus Lawrence peut appliquer la pression aussi. C'est une bonne défense, bien équilibrée. Puis au contraire, Washington, qui est très, très mauvais du côté de la protection de Carson Wentz, c'est là que ça va jouer. Donc, victoire Cowboys.
Ouais, j'avais mis les Cowboys vainqueurs il y a deux semaines avec Cooper Rush, parce que je me disais que les joueurs allaient se rallier autour de Cooper Rush. Je m'attendais à une mauvaise performance de Cooper Rush en fin de semaine. Je l'ai pas eu. Pas une excellente non plus, mais quand même assez pour gagner. Je vais retourner avec les Cowboys parce que c'est à domicile puis qu'ils m'ont quand même convaincu avec leur match contre les Giants qui était 2-0 avant ce match-là. Les Seahawks s'en vont à Détroit qui encore un mauvais début de saison pour les Lions. Encore Dan Campbell qui passe proche de pleurer puis qui dit que c'est de sa faute. C'est comme pauvre Lyon, là. Ils ont une bonne équipe, là. Qu'est-ce qu'ils attendent de gagner un match?
Ben, écoute, ils ont quand même chauffé les Eagles en première semaine. Ils ont gagné leur match de deuxième semaine. T'sais. Mais là, on parlait tantôt des absences possibles. Saint Brown puis Swift, ça va être la clé à surveiller. Là. Si ces deux gars-là jouent pas, moi, je donne les Seahawks gagnants. Puis, écoute, ils ont une très mauvaise défensive là, contre le sol, les Seahawks. C'est pour ça que DeAndre Swift doit jouer. Parce que sinon, bon, Jamal Williams peut faire le travail là, tu sais, pour un match. Là, je dis pas qu'il est pas capable, mais c'est clairement pas le potentiel d'explosion que démontre Swift. Je vais prendre pour acquis que ces deux gars-là jouent pas, puis je vais y aller avec une victoire des Seahawks, quitte à m'ajuster là, pour mes prédictions qui paraissent le samedi dans le journal.
Écoute, pour une des rares fois dans les dernières années, les Lions sont favoris pour ce match-là.
Ouais.
J'ai pas regardé le match au complet des Seahawks, mais tout ce que j'ai vu de Geno Smith est affreux.
Rappelle-toi qu'il était supposé d'aller au Temple de la Renommée après sa première demi contre les Broncos.
Oui. Mais là, on a vu ce qu'étaient vraiment les Broncos cette saison jusqu'à maintenant, puis on reconnaît le bon vieux Geno Smith. Moi, je pense que les Lions vont prendre l'avance quelque part dans le match, puis que Geno Smith sera jamais capable de rattraper. Victoire des Lions, même si DeAndre Swift n'est pas là. Chargers à Houston, alors que les Texans... Écoute, le seul joueur... Je pense qu'il y a deux carrières qui n'ont pas d'interception depuis le début de la saison, puis Davis Mills en fait partie.
Ouais, c'est pas facile. Il faut dire qu'il y a une grosse commande là. On a fondé beaucoup d'espoir en lui, puis lui, il sait que son futur est en jeu. Parce qu'on en parlait avant le début de la saison. Davis Mills, s'il fait pas extrêmement bien, ben les Texans l'an prochain, ils vont repêcher tôt, puis ils vont repêcher un carrière. Donc, sa job est en jeu. Ça doit être une pression assez difficile pour le jeune. Est-ce qu'il va avoir une vraie chance de se faire valoir? Tu sais, je pense pas. Ce match-là, ce qui est à surveiller, selon moi, au-delà des blessures des Chargers, c'est que c'est la pire équipe contre le jeu au sol. La défensive des Texans est la pire dans la ligue. Ils donnent 202 verges au sol par match. Mais les Chargers, c'est la pire équipe au sol. Ils gagnent seulement 59 verges par match. Fait que je pense que c'est le moment là, pour les Chargers de relever cette attaque au sol-là, de relancer un peu Austin Eckler qui en arrache un peu depuis le début de l'année. C'est le temps d'attaquer les Texans là où ils sont pas capables de se défendre. Je vais y aller avec cette stratégie-là puis une victoire des Chargers.
Les Texans sont à domicile. Leur attaque va quand même pas si mal. Mais je suis pas capable d'y mettre gagnant contre les Chargers.
Ah!
surtout que les Chargers vont quand même... Tu sais, il y aurait nulle part qu'on voit que Justin Herbert sera pas derrière la ligne de mêlée. Fait que avec Justin Herbert, je suis quand même confiant que les Chargers vont rebondir après leur défaite de cette semaine. Les Titans s'en vont affronter les Colts à Indianapolis. Les Colts, ouais, quand même sur ils ont souri cette semaine là, pendant l'entraînement.
Ouais, puis elle est pas facile celle-là parce qu'on parle quand même de deux équipes qui viennent d'aller chercher une première victoire, qui pourraient là être sur un bel air d'aller. Très 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 embêtant. J'y vais avec les Colts. Écoute, ils ont des problèmes à ligne à l'attaque, ça me stresse bien gros. Mais du côté des Titans, c'est pas nécessairement là, un pass rush qui est mortel jusqu'à maintenant cette saison. Je vais y aller avec les Colts dans ce match-là.
Ouais, moi aussi. Là, Matt Ryan puis Ryan Tannehill, c'est comme on dirait une autre génération. Puis deux corps à qui on fait plus confiance. Quoique j'ai jamais vraiment fait confiance à Ryan Tannehill, mais à ce stade-ci, je pense que Matt Ryan est plus capable de contrôler son attaque. Je vais prendre les Colts, moi aussi, qui sont favoris par un toucher à domicile, par un placement, pardon, à domicile.
On parle des corps, puis ça devrait être avant toute chose un duel entre deux excellents porteurs de ballon, Derrick Henry puis Jonathan Taylor.
Raison, mais deux porteurs de ballon qui n'ont pas jusqu'à maintenant démontré qu'ils étaient capables de traîner leur équipe sur leur dos cette année, mais il est tôt.
Exact.
On parlait de Justin Fields. Il s'en va affronter Daniel Jones. Là aussi, on part des corps arrière, mais d'après moi, c'est pas eux qui vont gagner le match en fin de semaine.
Non, c'est ça. Puis, écoute, on parlait de Fields tantôt, ça sert à rien d'en rajouter, mais c'est vraiment pénible. Tu sais, l'attaque des Bears repose à peu près entièrement sur le jeu au sol. Même la semaine passée, quand David Montgomery est tombé au combat, Khalil Herbert a fait un très bon travail. Mais les Giants, on peut leur reprocher bien des affaires, mais ils jouent quand même bien défensivement. Ils ont un bon front défensif qui peut maîtriser, je pense, le jeu au sol des Bears. Des gros bonhommes sur cette ligne défensive-là. Puis à l'attaque, ben écoute, c'est pas ce qu'on voudrait voir avec Daniel Jones puis sa ligne à l'attaque qui sait pas le protéger. Mais Saquon Barkley connaît un très bon début de saison. Ça fait du bien de le voir comme ça après des années de blessures puis de vaches maigres. Je pense qu'il va faire la différence dans ce match-là en faveur des Giants.
Je pense que les Giants ont appris, moi, de leur match contre les Cowboys puis qu'ils vont s'ajuster avec Daniel Jones en lui donnant des options un petit peu plus courtes. Et je pense que leur attaque va progresser puis ils vont garder le ballon plus longtemps que Justin Fields puis ils vont gagner la bataille des revirements. Victoire des Giants. Les Jags s'en vont affronter la seule équipe invaincue de la nationale, Philadelphia Eagles.
Wow, c'est super intéressant ce match-là. Comme je le disais tantôt, j'ai hâte de voir les Jaguars contre une équipe en feu comme les Eagles. Il y a plusieurs points dans ce duel-là. C'est le retour de Doug Peterson à Philadelphie. Là. Ouais. Hey, oublie pas une chose, il a pas été là longtemps, mais il y a toujours bien une statue en face du stade, lui, ouais. Quand même.
Une statue puis une bague.
Oui, la statue, bon, c'est comme je te dis, là, il a eu juste le temps de faire le moule là, à peu près, puis il est parti, mais bon. En dehors de ça, les Jaguars, s'ils l'emportent, ce serait la première fois depuis 2017 qu'ils gagneraient 3 matchs de suite. C'est quand même pas rien, là. C'est pour te montrer comment ça arrive pas souvent dans leur histoire. Et puis, en ce moment, ils ont le deuxième meilleur différentiel de points dans la NFL après 3 semaines, plus 46, les points pour et les points contre. C'est intéressant ce qu'ils font, vraiment impressionnant même les Jaguars. Mais Jalen Hurts est tout simplement trop en feu en ce moment. On parlait de Lamar tantôt, là, mais c'est un autre corps arrière qui se démarque vraiment à travers la NFL cette année. Un bond vraiment prodigieux par rapport à l'an passé. Ça va continuer dans ce sens-là. Victoire Eagles.
Ouais, moi je pense.
Je sais que tu vas y aller avec les Jaguars. Hein.
J'allais dire, les Eagles gagneront pas tous leurs matchs cette année. Ils vont en perdre, mais ce sera pas contre les Jaguars en fin de semaine.
Ah.
Victoire des Eagles. Les Jets contre les Steelers à Pittsburgh.
Ouais, il n'y a pas grand-chose à surveiller, à part que ce serait potentiellement, on n'a pas la confirmation au moment où on enregistre, mais ce serait potentiellement le retour de Zach Wilson comme corps arrière des Jets. Ça, c'est important, je pense, de le souligner. Pas parce qu'il a été si dominant à sa saison recrue, mais il y a de bons nouveaux éléments là, au sein de l'attaque. T'sais, on parle de Breece Hall, le porteur de ballon, de Garrett Wilson. On en discutait tantôt avec les questions des auditeurs. Je pense qu'on lui a donné des armes de plus pour réussir. C'est sa deuxième année. Il y a un peu plus de bagages. J'ai hâte de le revoir en action. Mais, cela étant dit, je favorise quand même les Steelers.
Bon, ben, on ne se chicanera pas beaucoup cette semaine parce que les Steelers à domicile, ils vont donner du fil à retordre aux Jets là, qui, malgré des progressions, sont pas encore rendus à un stade d'affronter une équipe dans un environnement hostile et de gagner dans l'adversité. Donc, victoire des Steelers. Les Cards s'en vont voir les Panthers en Caroline. Ça aurait été un match facile à prévoir l'année passée, mais là, cette année, j'ai bien hâte de t'entendre.
Ouais, le gros problème d'Arizona, c'est pas compliqué, c'est qu'ils commencent pas le match à l'heure à chaque fois. À chaque semaine, depuis le début de l'année, ils prennent un gros retard, ils se retrouvent à ramer contre le courant. C'est plutôt compliqué à ce niveau-là. Là, ils en ont parlé. Cliff Kingsbury a adressé ce problème-là cette semaine, semble-t-il. Mais qu'est-ce que ça va donner comme résultat concret? Dur à dire. Je vais y aller quand même avec les Cards cette semaine. Là, tu vois mon niveau de conviction élevé hein, dans ma voix. Kyler Murray devrait sortir un gros match, mais j'arrive pas à m'expliquer à quel point il joue mal Arizona cette année. Tu sais, tu fais exception du quatrième quart contre les Raiders. C'est tellement pas du beau football. Défensivement, c'est sûr qu'ils ont pas ben d'équipe. Mais à l'attaque, ils devraient faire mieux, même si DeAndre Hopkins purge encore sa suspension. Je sais même pas pourquoi je leur fais confiance, mais j'y vais avec eux. Tout simplement.
Ben, moi, en tout cas, j'étais inquiet là, de voir Kingsbury cette semaine. On dirait que...
Il a l'air à court de solutions.
Il a l'air à court de solutions. On dirait qu'il maîtrise pas son équipe. Je sais pas c'est quoi la relation avec son corps arrière, mais... T'sais, avec l'été qu'ils ont eu, on dirait que c'est pas beau fixe. Tu as raison de dire que Kyler Murray fait des affaires pour sauver son équipe, mais on dirait qu'il est fait tout seul encore. Ouais. Fait que, à domicile, je vais y aller avec les Panthers.
Okay.
Victoire donc de la Caroline en espérant que ils réussissent à arrêter le jeu aérien des Cards. OK, les Pats, là, les Pats s'en vont à Green Bay dans de l'incertitude. Ils sont, ouais. Écoute, c'est rare qu'on voit ça, là, mais les Packers sont favoris par presque 9 points. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est fort possible qu'ils couvrent les corps, hein. Honnêtement, je serais pas surpris parce que les Packers, il y a la situation au poste de corps qu'on parlait tantôt, la blessure de Mac Jones.
Les Pats, tu veux dire, ouais.
Les Pats, oui, effectivement, excuse-moi. Les Pats... Si Mac Jones, par un grand miracle du Saint-Esprit, arrive à être là, il sera pas en santé, tout simplement.
C'est quand même le même Mac Jones qui a lancé 3 interceptions en fin de semaine.
Ouais, et puis la grosse logique veut qu'il soit pas là de toute façon.
Exact.
Les Pats, on risque de revoir les bons vieux Pats qui courent, qui vont avec des jeux de passe très courts. Je pense que le défensif de Green Bay est largement capable de maîtriser ça. On les a vus, ils ont été excellents contre le jeu au sol. Ils ont limité Tampa, je pense, à quelque chose comme 34 verges au sol la semaine passée. Donc, une victoire assez confortable des Packers de mon côté.
Les Broncos qui ont son chanceux en fin de semaine, ils
seront... Tu vas avec qui, toi, Jean-Luc?
Je vais avec les Packers, oui, excuse-moi. Oui, okay. Oui, les Packers qui vont... je ne sais pas, moi, s'ils vont couvrir, là, parce que c'est pas comme si les Packers ont une facilité à empiler les points cette année, là, mais... Disons que je vois une victoire des Packers sans trop de difficultés. OK, les Broncos, ben ce que j'allais dire, c'est que les Broncos, une bonne nouvelle pour eux cette semaine, ils ne seront pas hués, en tout cas pas par leurs partisans, ils s'en vont à Las Vegas pour affronter les Raiders.
Ouais, c'est ça, ça risque d'être quasiment plus détendu comme atmosphère. Ben oui,
ils doivent rêver de jouer ailleurs qu'au Mile High.
C'est un autre match. Ouais, c'est ça, le stade a tellement changé de nom au fil des ans, mais ça reste Mile High dans notre tête, on se comprend. Ces deux équipes, vraiment, ça joue pas du gros football, on s'entend. Là. Même si les Broncos sont 2 et 1, c'est l'équipe de 2 et 1 peut-être la moins convaincante dans le football actuellement. À part défensivement, il n'y a pas grand-chose à redire de ce côté-là. Les Raiders, je pense que ça se peut pas là, que ça continue la chute libre comme ça. Ils vont finir par gagner des matchs. Je vais y aller avec une victoire cette semaine, tiens. Comme je le disais, ils s'accrochent, ils passent proche à chaque semaine. À un moment donné, la chance va leur sourire. Je veux en voir plus du côté de leur attaque. C'est dur contre une défense comme Denver, par exemple. Mais c'est un club qui joue généralement bien contre les Broncos à la maison. Ils n'ont pas perdu à maison contre les Broncos depuis 2015. La chance va tourner de leur côté cette semaine.
Ouais, moi aussi, je pense que là, Derek Carr va avoir eu une belle semaine à se préparer. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils, là. Il savait peut-être pas trop comment les utiliser, même s'il a réussi à faire des points puis à faire marcher McCollins en fin de semaine. Je pense que là, ils vont empiler des points contre Denver, puis Denver sera pas capable de suivre le rythme. Victoire des Raiders. C'est le match du dimanche soir. Les Chiefs qui s'en feront affronter Tom Brady à Miami ou à Tampa Bay, on ne sait pas encore.
Ouais, une revanche du Super Bowl d'il y a quoi, il y a 2 ans, c'est ça? On se rappelle à ce moment-là qu'est-ce qui s'était passé. Là, les Buccaneers avaient complètement dominé la ligne à l'attaque des Chiefs. Depuis ce temps-là, par contre, faut le dire, là, parce que ça, c'est le passé, les Chiefs se sont donné beaucoup, beaucoup de nouvelles munitions sur la ligne à l'attaque, justement. C'est plus du tout la même game. Les deux attaques, là, tu sais, c'est pas l'attaque des Chiefs qu'on a connue par le passé. Puis Tampa Bay, c'est clairement une attaque qui cherche en ce moment. Ça pourrait être un match à plus bas pointage qu'on pense. Puis j'y vais avec les Chiefs. Il y a quelque chose qui se passe, c'est tout croche. Là, je comprends que Mike Evans va être là cette fois-ci. Mais Tampa manque ses cibles de l'an dernier. Là, tu sais, Chris Godwin qui tarde toujours à revenir. Je sais pas s'il va être là. Même chose pour Julio Jones. C'est la ligne à l'attaque du côté des Bucks qui me chicote un peu. Tom Brady qui se retrouve souvent en dessous de piles de monde très rapidement. Pourtant, il décoche encore le ballon très vite. Mais la pression arrive à un rythme vraiment surprenant. Donc, victoire des Chiefs.
Tu l'as dit, la dernière fois que les Chiefs se sont rendus à Tampa Bay, c'était pour jouer le Super Bowl. Ils l'ont perdu. Moi, je pense qu'ils s'en rappellent. Puis ils vont les battre. Les Buccaneers et Tom Brady. Est-ce qu'ils vont être à Tampa Bay? On le sait pas. Étant donné les conditions météo, peut-être que ça va jouer à Miami, mais ça va être en Floride.
D'ailleurs, l'équipe s'est entraînée à Miami toute la semaine.
Exact. Alors, les Chiefs vont remporter le match contre les Bucks. Et on termine avec les Rams, un match intra-division contre les Niners, Monday Night Football.
Ouais, ça devrait être bien, en autant que les Niners jouent pas un match offensif comme la semaine passée. Là, c'était pitoyable de voir aller Jimmy Garoppolo qui s'auto-safety.
Oui.
Si t'as vu le jeu, oui, oui. Il a fait un Dan Orlovsky de lui-même. Ça, c'est pas peu dire.
D'ailleurs, Dan Orlovsky qui a tweeté que c'était la plus belle journée de sa vie, là, qu'elle a arrêté le seul à être la cible de tous les colibets à propos de sortir soi-même en safety.
Ah ouais, c'était excellent ça. Puis écoute, les Niners qui ont souvent beaucoup de succès contre les Rams, c'est une équipe qui sont capables de bien matcher. Puis j'aime pas depuis le début de l'année, la ligne offensive des Rams, c'est clairement pas la ligne offensive des dernières années. Puis contre le front des Niners, ben c'est de mauvais augure, honnêtement. J'y vais avec une victoire des Niners dans ce match du lundi soir.
Ouh, OK. Moi, je vais y aller avec les Rams parce que j'ai des yeux pour voir le match que les 49ers ont joué en fin de semaine. Sérieusement, ils vont avoir, d'après moi, une saison qui va être difficile s'il faut qu'ils marquent, faut qu'ils gagnent des matchs sans marquer 20 points. Je pense que les Rams vont marquer plus que 20 points contre les Niners. Victoire des Rams! Merci, Steph, pour cette semaine de prédiction. On va voir nos résultats à la fin de lundi, à la fin du match du lundi soir. On va être de retour avec nos prédictions la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on fait une pause. Et après la pause, c'est la chronique au bar.